Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole. Vincent Parisot.
Dans 20 minutes, nous serons avec Martine Pinville, la secrétaire d'État chargée du commerce et de la consommation, notamment pour évoquer les arnaques de l'été. Évidemment, c'est un rendez-vous des vacances. La ministre a dressé hier à mi-parcours un bilan d'une opération qui s'appelle Interministérielle Vacances pour éviter les arnaques. On va en dresser le bilan. Elle va sans doute nous donner quelques astuces pour éviter de se faire arnaquer, mais on vous attend au 3210, soit pour lui poser des questions, soit pour nous raconter les arnaques dont vous avez peut-être été victime. Dans un premier temps, nous sommes donc avec Eduardo Riancipel. Bonjour.
Bonjour.
Député socialiste de Seine-et-Marne, vice-président de la mission d'information sur les moyens de Daesh. Alors, ce matin, François Hollande a réuni à l'Élysée un conseil de sécurité et de défense, avec notamment l'annonce d'une répartition différente des moyens des forces sentinelles, 4000 à Paris, 6000 en province, mais pas de nouvelle annonce proprement dite. Est-ce que ça veut dire, comme le dit Nicolas Sarkozy dans Le Monde aujourd'hui, que la gauche est tétanisée face au terrorisme ?
Je crois que pour lutter face au terrorisme djihadiste, il faut d'abord un mental, un état d'esprit, et il faut se garder de toute démagogie et de toute formule à l'emporte-pièce. Je résumerai cela en disant qu'on ne lutte pas contre le terrorisme avec des slogans, ni en roulant des mécaniques. Et de ce point de vue-là, je regrette que M. Sarkozy, qui est quand même un ancien président de la République, tombe dans ce piège, dans cette tentation de la démagogie. Et pour un ancien chef de l'État, il n'est franchement pas interdit de regarder la situation de son pays avec les lunettes, justement, d'un homme d'État. Et je crois que là-dessus, il faut débattre. Il n'y a pas de tabou. Nous sommes une grande démocratie. On peut discuter de la meilleure façon de lutter contre le terrorisme et la menace djihadiste. Mais attention, ne produisons pas ce qu'attendent de nous l'organisation terroriste Daesh. Alors, c'est-à-dire de nous diviser et de faire croire, parce que c'est quand même la stratégie de M. Sarkozy, ça c'est très dangereux. Aussi dangereux que les risques de sécurité terroriste pour lutter contre le terrorisme, de diviser, de fracturer la cohésion nationale.
Oui, mais Eduardo Riancipel, face à la multiplication des attentats ou des tentatives d'attentats d'ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas nécessité, comme on dit, de monter d'un cran le niveau de sécurité, le niveau d'engagement dans la lutte contre le terrorisme? Alors, on entend dire qu'on a aujourd'hui les armes, qu'on a l'arsenal législatif. Alors, qu'est-ce qu'on ne fait pas assez bien? Qu'est-ce qu'on n'utilise pas, justement, pour arriver, par exemple, à ce qu'on n'est pas, comme ça a été le cas dans l'attaque d'hier, quelqu'un qui soit avec un bracelet et qui puisse commettre quand même un attentat?
C'est une vraie question. Je vous répondrai, je vous donnerai mon avis sur cet élément, dont il faudra attendre que l'enquête détermine toutes les précisions de la vérité. C'est une menace de long terme. Et combien de fois je suis venu à votre antenne, Vincent Parisot, pour dire que la menace terroriste de ce djihadisme nouveau était une menace de très long terme pour la société française et pour toutes les sociétés européennes. Je crois que les Français l'ont compris depuis les attaques contre Charlie Hebdo. Et depuis que je suis élu député, je suis membre de la commission de la défense nationale et des forces armées, j'ai été membre de la commission sur le livre blanc sur la sécurité, sur la défense et la sécurité nationale. Nous avons identifié dès le départ. Et d'ailleurs, nous avons, dès le départ, avec le président de la République et le gouvernement, monté en puissance, avant même qu'il y ait des attentats, on savait quels étaient les risques. Faut-il rappeler l'intervention du président de la République au Mali début janvier 2013 donc, si vous voulez, nous sommes déjà en train, depuis ce quinquennat, en train de réparer un certain nombre de dégâts aussi qui ont été commis par M. Sarkozy. Je crois qu'à un moment donné, il faut le dire, quand il a détruit les renseignements généraux, avons perdu tout un maillage de renseignements de proximité qui nous
permettent de capter. Vous avez moins peut-être avec la fin des renseignements généraux de retour.
On ne reconstruit pas un service de renseignement du jour au lendemain. Nous avons pris les bonnes décisions. Je crois en effet que nous sommes au maximum de l'arsenal juridique et législatif. La surenchère aujourd'hui de la droite, de l'opposition, nous amène à un choix. Il est possible, ce n'est pas le mien. Ce serait celui de rentrer dans un régime d'exception. Ouais. Et aujourd'hui, Vincent Parisot, ce que je regrette, c'est que les propositions faites par la droite, qu'il faut débattre, ce sont des mesures d'exception. Les mêmes qui étaient celles de la politique de George Bush après les attentats du World Trade Center en 2001, en septembre, le 11 septembre 2001, et pour quelle efficacité ?
Alors,
des camps de concentration type Guantanamo,
je vous interromps. Je vous interromps un instant, Eduardo Rio-Sipel. Vous disiez tout à l'heure, il faut penser la lutte contre le terrorisme à long terme. C'est exactement ce que nous dit Jacques, même si ensuite je pense que son analyse diverge de la vôtre. Je voudrais qu'on lui donne la parole. Bonjour Jacques.
Oui.
Bonjour, vous nous appelez de Brie, hein, c'est ça ?
Bretagne. Oui, en fait, je disais à votre collaboratrice que déjà, j'ai entendu en septembre 2001, je pense qu'en fait, on aurait dû comprendre qu'on était rentré dans un processus de guerre, puisque le mot guerre est prononcé à long terme. Et je pense qu'aujourd'hui, l'arsenal législatif français est suffisant. Peut-être pas suffisamment appliqué, mais suffisant. Mais mon sentiment, c'est qu'il faut, dès aujourd'hui, préparer cette guerre à long terme.
C'est-à-dire comment, concrètement, Jacques ?
Concrètement, ça peut aller jusqu'à une modification de la Constitution sans limiter les droits. J'entendais parler de Patriot Act. Patriot Act, ce n'est pas que Guantanamo, Dieu merci.
Ouais.
C'est aussi les capacités d'écoute des services comme NSA, des services comme...
Donc le renseignement, la surveillance.
Bien sûr. D'autant qu'on s'est coupé complètement des renseignements dans le Middle East. Moi, j'exerce un métier qui me fait parcourir le monde.
Ouais.
Et qui me met en conscience des mesures de sécurité, puisqu'on là on parle du court terme et pas du long terme.
Oui.
Pour commencer par le court terme, je connais bien l'Israël,
oui.
Un petit pays, c'est vrai, pas la dimension de la France, qui vit une guerre chronique, qui vit un terrorisme chronique. Dans un village de 15 000 habitants, si vous avez une gare, vous avez automatiquement une fouille.
C'est ça. Alors ça, c'est intéressant, Jacques. Eduardo Rio-Sipel, c'est vrai que quand on dit qu'il faut s'inspirer d'Israël, on compare deux États qui ne sont pas comparables, ne serait-ce qu'en termes de démographie et de population. Mais il y a aussi des réflexes. Et ce que nous dit Jacques, dans n'importe quelle petite gare en Israël, vous avez un service de sécurité et de surveillance, par exemple.
Mais je partage complètement la réflexion de Jacques. Je rappelle au passage pour Jacques que nous avons voté la loi renseignement qui a donné des capacités supplémentaires techniques pour pouvoir écouter, baliser des voitures, donner un cadre juridique qui donnait plus de pouvoir, notamment en matière de cyber technique pour les écoutes et autres dispositions, tout en donnant un cadre juridique qui nous permettait de rester dans l'état de droit et de ne pas voter une loi s'approcherait de quelque chose comme Big Brother. Nous avons rétabli le renseignement territorial, c'est-à-dire le renseignement de proximité. Tout cela avant les attentats. Tout ça avant les attentats, parce que nous avions fait l'analyse juste. Mais la montée en puissance, elle est longue. Aujourd'hui, il faut s'adapter en permanence, d'où le Conseil de défense ce matin présidé par le président de la République. Il ne s'agit pas de faire... si vous voulez, de monter dans une sorte d'échelle sécuritaire, quantitative, qui ne servirait à rien. Nous avons affaire à une menace asymétrique. Tout le monde l'a compris. Aujourd'hui, avec des objets du quotidien, je dis bien avec des objets du quotidien, avec des individus quasiment seuls ou presque seuls, ce que nous appelons le solo djihad, même s'il n'y a jamais de loup solitaire, il y a toujours un minimum de connexion entre les gens. C'est cela que nous affrontons. Et il faut comprendre que c'est particulièrement difficile à détecter. Là où je suis d'accord peut-être avec Jacques, c'est que il faut mettre en place une sorte de vigilance citoyenne, une sorte de vigilance citoyenne. Il faut mobiliser toutes les forces vives de la société pour endiguer, neutraliser la radicalisation qui conduit à l'ultraviolence qui est celle des terroristes. Et en effet, je crois que les pouvoirs publics, mais aussi le monde privé, devra prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la sécurité au quotidien, notamment avec des fouilles. Nous avons été capables d'accepter des changements de comportement et d'attitude, notamment dans les aéroports. Il faudra peut-être que les entreprises privées, centres commerciaux et autres lieux qui accueillent du public, puissent investir davantage
pour la sécurité. La sécurité. Je vous interromps un instant, Eduardo Rio-Sipel, parce que...
que nous évitions surtout de rentrer dans une société paranoïaque.
Alors, je vous interromps un instant, on va marquer une courte pause et puis on se retrouve pour la suite et la fin de cet entretien sur RTL. Eduardo Rio-Sipel, vice-président de la mission d'information sur les moyens de Daesh. On remercie Jacques qui nous appelait de Brie, qui nous disait « Inspirons-nous par exemple de ce qui se fait en Israël ». On va voir Pascal dans un instant au 3210. À tout de suite.
RTL Midi.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h. Vincent Parisot.
Et on attend vos témoignages sur les arnaques de l'été. Vous en avez été victime pendant les vacances de ces arnaques, alors plus ou moins lourdes, plus ou moins graves. Racontez-nous comment ça s'est passé, ce que vous avez fait, comment vous auriez pu peut-être les éviter. Dans quelques minutes, nous serons avec la secrétaire d'État au commerce, à l'artisanat et à la consommation, Martine Pinville, qui a fait le bilan d'une opération interministérielle sur justement les arnaques de l'été et qui nous donnera peut-être quelques conseils pour les éviter. Mais en attendant, on attend vos témoignages tout de suite. Au 3210, on est toujours avec Eduardo Rio-Sipel, donc le député socialiste, vice-président de la mission d'information sur les moyens de Daesh. On parle des moyens d'améliorer notre sécurité en cette période de risque terroriste. Et Jacques, Jacques, c'est celui qui nous appelait à l'instant. Et Pascal, pardon, nous appelle du Cher de Banet. Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour. Bonjour, merci. Merci à vous. Merci à vous.
On vous écoute.
Oui, écoutez, j'aurais voulu m'exprimer sur la responsabilité de nos magistrats.
Oui.
Ils sont quand même des gens qui sont des gens responsables, mais qui n'ont pas le droit à l'erreur. Et je pense que ces trois magistrats, parce qu'ils étaient trois, qui ont remis ces gens dehors, cette personne dehors, Non, là, je suis pas d'accord.
Alors, est-ce que vous voulez dire qu'ils devraient rendre des comptes, les magistrats ?
Bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Vous avez certains métiers où si vous faites une faute professionnelle grave, parce que là, c'est une faute professionnelle grave, on doit rendre des comptes.
Même si on a expliqué.
Ces gens-là ne rendent pas de comptes. Ces gens-là sont indépendants, ils peuvent se regarder dans une glace ce matin. Aujourd'hui, ils peuvent se regarder dans une glace.
Eduardo Rio-Sipel.
Ça doit être difficile.
Qu'est-ce que vous répondez à Pascal ?
Mais comment voulez-vous que je ne ressente pas les choses comme Pascal ? Je pense que tous les Français le ressentent, mais j'essaye aussi de lutter à l'intérieur de moi-même contre toute forme de pulsion qui me conduirait à un populisme, à une démagogie contre la justice. Mais pour être très clair avec vous, je crois que de ce point de vue-là, il y a peut-être des choses à améliorer. Chacun a compris que le parquet antiterroriste, n'avait pas souhaité, avait refusé, s'était prononcé contre la libération de cet individu qui a commis l'attentat terroriste. Il avait été mis en contrôle judiciaire avec un bracelet électronique. Il faut peut-être en effet que dans la justice, on s'interroge en profondeur, en tranquillité, mais en profondeur, mais en même temps vite, sur ce qu'ils peuvent faire comme réforme, et notamment dans l'application des textes de loi. Et je pense aussi qu'un certain nombre de dispositions législatives pourraient peut-être être améliorées. Le crime, d'ailleurs c'est pas un crime, l'association dans le but de commettre un attentat, l'association pour de malfaiteurs dans le but de commettre un acte des terroristes, est punie d'une peine maximale de 10 ans.
Oui.
C'est-à-dire que les gens impliqués dans les filières djihadistes, s'ils prennent le maximum, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est 10 ans. Moi je pense qu'on pourrait peut-être aller plus loin. Il n'y a pas de raison de dire que c'est très dangereux le terrorisme et que les gens qui participent à des filières n'est pas des peines maximum qui vont à 20, 25 ans.
Et justement, qu'est-ce que vous pensez ensuite, de la proposition de François Fillon de réactiver cet article sur l'intelligence avec l'ennemi qui punit jusqu'à 30 ans de prison ceux qui ont des contacts avec l'ennemi en temps de guerre, mais on considère qu'on est en guerre, Eduardo Rio-Sipel.
Je ne suis pas fermé à regarder cette position de François Fillon dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre de l'état de droit, parce que je suis convaincu que le seul régime fort, c'est l'état de droit. Pour lutter contre le terrorisme djihadiste, c'est le seul régime fort, c'est l'état de droit. Ne nous trompons pas. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas là pour faire des cadeaux à des gens qui veulent nous assassiner et diviser la société française. Donc, mettons tout ce qui doit être mis en place, mais ne cédons pas encore une fois à cette tentation populiste, parce que c'est ce que recherchent les terroristes de Daesh. Je crois qu'il faut, à côté de cela, Vincent Parisot, un réarmement moral de la République française.
Merci, ça sera le mot de la fin, un réarmement moral de la République française. Eduardo Rio-Sipel, on remercie Pascal qui nous appelait du Cher. On pourra évidemment y revenir dans un instant. Une courte pause, à tout de suite.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole. Vincent Parizeau.
Il vous est sans doute déjà arrivé de vous faire arnaquer l'été. Dans les grandes largeurs ou pas, hein, peut-être. Mais en tout cas, vous pouvez nous le raconter au 3210, nous expliquer ce qui s'est passé. On attend votre témoignage maintenant parce que le deuxième invité des auditeurs ont la parole est la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, Martine Pinville. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, c'est les vacances d'été et on le sait, eh ben, c'est une période assez propice aux arnaques, hein, parce que ben, voilà, c'est le jeu de l'offre et de la demande, et quand il y a beaucoup de demandes, certains sont peu regardants. Vous étiez hier à Brest hein, pour donner les résultats à mi-parcours de l'opération interministérielle vacances de cette année. Déjà, rappelez-nous en quoi consiste cette opération.
Oui, d'abord, qu'est-ce que c'est cette opération interministérielle vacances? Qu'est-ce qu'elle permet? En fait, elle permet aux vacanciers, à tous ceux qui partent en vacances chaque été, mais même au-delà, d'avoir une certaine tranquillité et une certaine sécurité quand ils sont dans un camping, quand ils vont au restaurant. Voilà le but de cette opération interministérielle, où là, pendant ce moment-là, il y a des contrôles renforcés.
Oui, et vous pouvez nous en donner quelques résultats, parce que j'imagine que là, je crois que vous faisiez le bilan à mi-parcours.
Oui,
hein,
c'est
on
ça.
On est sur le mois de juillet,
oui,
enfin
voilà.
juin-juillet, j'imagine. Oui. Est-ce que il y a plus d'arnaques ou moins d'arnaques qu'avant ?
Non, c'est à peu près la même chose que l'année dernière. Moi, je dirais, nous avons depuis le début du mois de juin effectué 40 000 contrôles. Ce sont 12 500 anomalies qui ont été repérées. Et parmi ces 12 500 anomalies, ce sont 5%, c'est-à-dire environ à peu près 1 500 anomalies qui vont faire l'objet de poursuites plus importantes, quelquefois de fermeture, quelquefois ce sera le retrait de certaines marchandises. Mmh. Donc voilà, à mi-parcours, le bilan, c'est à peu près similaire à l'année dernière.
C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il y a une dégradation. Ça reste quand même important, par exemple, si on dit 10% on est quand même dans 10% de fraude.
Non, c'est pas obligatoirement de la fraude. Et je prendrai l'exemple du camping du Goulet à Brest où j'étais hier, où ce sont deux co-gérants qui sont tout seuls pour gérer leur camping et qui n'ont pas quelquefois connaissance de toutes les informations nécessaires en matière d'affichage, en matière de repérage. Donc effectivement, quand des contrôles sont effectués, eh bien ça leur permet, là, dans ce cas-là, d'améliorer la qualité et en somme le service aux vacanciers et aux consommateurs.
Ça c'est intéressant parce qu'il y a la fraude, c'est vrai, la fraude réelle, volontaire, et puis il y a aussi le moment où le commerçant, parce qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de normes à respecter, et que bah, dans ce maquis d'exigences, il arrive parfois que le commerçant passe un petit peu au travers. C'est peut-être votre cas et vous pouvez témoigner au 3210. Ce qui est sûr, Martine Pinville, c'est que la France est la première destination touristique mondiale, que ça représente un enjeu considérable pour l'économie française. Est-ce que la France a une bonne réputation vis-à-vis de nos visiteurs étrangers?
Alors, je veux rappeler que ce sont quand même 85 millions de visiteurs qui sont venus l'année dernière, qui se sont déplacés, qui sont venus en vacances en France. Mais dans ces 85 millions de visiteurs, il y a aussi les Français qui se déplacent pour 70% qui partent en vacances en France et qui restent en vacances. Donc, c'est vrai qu'il est important là d'améliorer cette qualité.
Qu'est-ce qui se passe lorsque vos services détectent un dysfonctionnement, une arnaque? Quelles sont les démarches? Est-ce que, par exemple, vous pouvez prendre la décision de fermer immédiatement un camping, un commerce, un hôtel, un restaurant, que sais-je?
Bien sûr, ce sont les divers services de l'État que sont l'agriculture, que sont la DGCCRF, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Ce sont un certain nombre de services qui, là, vont voir si les infractions sont très graves. Bien évidemment, ça peut aller jusqu'à la fermeture. Mais je dois dire que, globalement, ce sont des cas très rares.
Alors, quels sont les soucis les plus récurrents?
Alors, Par exemple, je veux quand même auparavant vous donner un exemple où je voyais dans ce camping hier où il y avait la sécurité quand même qui était mise en place par rapport aux enfants, par rapport aux jeux, par rapport au contrôle de ces jeux, par rapport à l'eau également, puisque, et où il était demandé d'avoir un seul contrôle et le gérant de ce camping faisait deux contrôles ou trois contrôles quand il voyait notamment qu'il y avait une utilisation plus importante. Ouais. Donc c'est bien pour montrer là qu'il y a une dynamique. Quand il y a, par exemple, des produits qui sont périmés, qu'on peut constater, on demande là, on va vers le retrait. S'il y a des infractions répétées, on peut aller là, vers la fermeture. Je ne peux pas dire qu'il y ait peut-être plus spécifiquement des infractions particulières qui soient constatées. Il y a un grand nombre de remarques qui sont faites. Et je crois que le seul but, c'est vraiment d'améliorer la tranquillité des vacanciers et la sécurité.
Mmh. Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux vacanciers pour se protéger des arnaques ?
Alors, effectivement, je pense que par rapport aux vacanciers, ils doivent être aussi acteurs, je dirais acteurs de leurs vacances. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent d'abord des informations. Et il y a souvent, je peux dire, des guides, il y a souvent des sites qui peuvent être répertoriés. Je pense, par exemple, au Gîte de France avec les labellisations. Ouais. Je pense à les restaurants avec certaines labellisations aussi, à certains guides. Je ne peux pas en nommer parce
non,
j'en oublierai bien évidemment. Mais c'est quand même là des gages.
C'est une assurance.
Ce sont des gages, ouais. En tout cas, d'appréciation.
Et tout ce qu'on va trouver sur les devantures des restaurants qui proposent effectivement un logo. Alors, il y a le logo fait maison. Enfin,
vous connaissez tous
ces logos. Oui. Hein. Il y en a quelques-uns. Hein. Mais on a du mal à s'y retrouver, même.
C'est vrai. J'entends bien qu'il y a beaucoup de logos. Fait maison, c'est notamment une labellisation de l'État et de mon secrétariat d'État, puisque j'ai responsabilité là des hôteliers et des restaurateurs. Mais les autres labellisations, ce sont les professionnels entre eux qui ont aussi le souci de la qualité et qui, par ces labellisations, permettent cette meilleure qualité. Et je crois qu'il faut que le consommateur, le vacancier qui veut partir en vacances dans de bonnes conditions, eh bien, il doit aussi y regarder, s'en inspirer.
Voilà, alors les guides, Internet et les différents labels. Le point définitif sera fait, j'imagine, à la fin de l'été.
Oui, à la fin de l'été. L'année dernière, nous avions fait à peu près 90 000 contrôles. On était plus près même des 100 000 contrôles. C'est un objectif. Hein. Et puis, le souci, ça améliore cette qualité. Et après tout, ce plaisir pour tous nos concitoyens de pouvoir prendre leurs vacances en toute tranquillité.
Bah oui, parce que l'idée, c'est quand même de profiter, de ces vacances et de ne pas avoir l'impression de se faire avoir. On vous remercie beaucoup d'être venu sur RTL. Martine Pinville, secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation. Vous pouvez maintenant réagir si vous le souhaitez au 3210. On prendra vos appels tout à l'heure et éventuellement témoigner de ces arnaques de l'été. Merci encore, Madame Pinville.
Merci beaucoup.
On marque une pause et on vous retrouve tout de suite au 3210.
Réagissez sur l'actualité.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi, Vincent Parisot.
Et vous êtes nombreux à vouloir vous exprimer et réagir après cet attentat d'hier matin. Hervé, par exemple, nous appelle de Saint-Brieuc avec une proposition. Alors moi, que je soutiens totalement, je vous dis tout de suite, Hervé, et qu'on évoque de plus en plus. Bonjour Hervé, d'abord.
Bonjour Vincent.
Bonjour, vous nous appelez de Saint-Brieuc.
Oui, tout à fait. Alors, ne plus leur donner le nom, ne plus leur mettre... Ça devient des héros, ces personnes. Mmh. Ils deviennent des héros en sachant que quand un jeune ou quand quelqu'un voit ça, je vais devenir un héros un jour, je vais tuer des gens, je vais devenir un héros. On a l'impression d'être dans un film, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo où il y a un héros qui est le tueur.
Et quand on sait en plus tout le rôle aujourd'hui que jouent les médias sociaux et après ce genre d'attentat, effectivement, ça pose cette question. Ça voudrait dire qu'il faudrait faire voter une loi, quand même, Hervé, qui soit, alors, du point de vue du défenseur de la liberté de la presse, que je suis forcément liberticide, mais en même temps, sans doute nécessaire, parce qu'on l'avait bien vu avec Mera et d'autres, certains deviennent de véritables
héros. Ils veulent mourir en héros. Ouais. Ça peut arriver, ça arrive. Il y a des gens qui veulent mourir en héros. Eh ben non, il faut arrêter. Il faut leur donner à X. Monsieur X a tué. Mmh. Voilà, il n'y a pas de religion, pas de. Il faut absolument qu'on arrête de dire Monsieur Intel, Monsieur Mera, etc. Non.
Avec des sanctions, évidemment, pour les organes de presse qui ne respecteraient pas.
Hélas, oui, avec des sanctions. Oui, mais sûr. Là, comme ça, on limiterait en France, sûrement certaines personnes qui passent à l'acte, quand ils voient leurs copains, quand ils voient leurs amis, quand ils voient les autres djihadistes donc le faire, ça limiterait sûrement et beaucoup donc des gens qui passeraient à l'acte.
En tout cas, c'est une proposition qui est faite, qui est dans l'air et qui est relayée par plusieurs personnalités, notamment, je crois, du côté des Républicains. On peut y revenir. Par ailleurs, Hervé, j'imagine que vous êtes assez... choqué de la décision des magistrats hein, de le mettre sous bracelet électronique.
On voit que l'État fait le maximum, on voit que partout le monde fait le maximum, les policiers font le maximum pour les arrêter, pour aller les chercher, les préfets font le maximum, et là on a un juge d'application des peines qui dit ben voilà, il passe avec un bracelet électronique, il a le droit de sortir entre
les deux. En l'occurrence, ce sont trois juges. On l'expliquait quand même, hein, ont beaucoup d'éléments d'information avant de se décider, et qui là avait un élément quand même assez important, à savoir que la famille de ce terroriste est une famille bien intégrée, on l'a dit, la mère est enseignante, la sœur est médecin, cette famille avait donné un certain nombre de gages aux magistrats, visiblement c'était pas suffisant, mais ça c'est facile de le dire, et c'est terrible de le dire après coup, quoi.
Oui, puis on ne peut pas être dans la tête de ce jeune. 19 ans, vous imaginez, 19 ans, combien de fois il a vu des jeux vidéo où on tuait des gens, etc. etc. On n'est pas dans sa tête, et un juge n'est pas dans sa tête. Aujourd'hui, il y a trop de risques. Il y a beaucoup trop de risques pour faire ce genre d'autorisation. Alors, est-ce que les juges sont condamnables? Je dirais pourquoi pas. Oui, pour moi, ils sont condamnables. Vous faites une erreur, vous êtes condamné. Un juge, aujourd'hui, doit aussi avoir des responsabilités. Il a des responsabilités, mais il doit pouvoir aussi être jugé par rapport à ses actes et par rapport à ce qui a été fait.
Restez avec nous, Hervé, parce que c'est ce que veut nous dire Pascal, qui est à Bannay dans le Cher. Bonjour, Pascal.
Allô?
Oui, bonjour, Pascal, bienvenue. Oh.
Oui, bonjour, je suis en Ille-et-Vilaine, en Bretagne.
Vous n'êtes pas du tout dans le Cher, vous êtes en Ille-et-Vilaine. Ah oui, bonjour. Vous étiez d'ailleurs hier à Sainte-Anne, c'est ça? Racontez-nous.
J'étais tous les 26 juillet, c'est le jour de la Sainte-Anne. Et en Bretagne, si vous voulez, c'est un pardon qui est très très important.
Oui.
Et j'y étais depuis de nombreuses années. Et disons qu'il fallait voir le monde qu'il y avait, c'était énorme. Et
combien de personnes d'après vous, Pascal?
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas su exactement, mais disons, l'esplanade et le sanctuaire étaient pleins.
D'accord, plusieurs centaines de personnes.
Oh oui, c'est des milliers,
oui.
Certainement. Et cette année, voyez-vous, c'était l'archevêque grec de Syrie, Monseigneur Jean-Clément Jambert.
L'archevêque d'Alep.
L'archevêque d'Alep qui présidait le pardon. Mais c'est vraiment un homme vraiment charmant et qui explique vraiment, disons, ce qu'ils vivent là-bas.
C'est donc lui qui vous a... Parce que ça, c'était hier, au moment où, juste après l'attentat, l'attaque de l'église.
Oui, mais la messe le matin, ça commence à 10h30, et on ne le savait pas du tout.
D'accord.
Moi, le téléphone était coupé, et c'est l'après-midi, au moment de la cérémonie d'après-midi des Vêpres, que l'on dit, et c'est là que c'est lui qui nous a indiqué qu'il y avait eu un meurtre, un assassinat du père. Mais il ne nous a pas dit exactement que c'était en France.
Oui.
Si vous voulez.
D'accord.
Et c'est après, quand je suis parti en voiture, que j'ai appris par votre radio que c'était en France qu'il y a eu l'assassinat du père Jacques.
Mais dites-moi, vous étiez si nombreux. Est-ce qu'il y avait des mesures de sécurité importantes à Sainte-Anne?
Oui. Disons, par rapport aux autres années, il y avait beaucoup de gendarmes. La gendarmerie était déployée avec armes.
Ouais.
Et j'étais surpris, moi, quand je suis arrivé, que j'ai vu qu'ils sortaient, parce que j'arrive toujours de bonne heure le matin. Et ils sortaient carrément les fusils à pompe, les grands fusils. Disons, ça m'a surpris quand même, je vous dis franchement.
On peut imaginer. Mais est-ce que ça vous inquiète? Ça vous a surpris, c'est une chose.
Oui.
Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que vous trouvez ça normal?
Je trouve ça normal. Mais moi, ce que j'ai dit à votre standardiste tout à l'heure, on est fouillé, si vous voulez, les sacs sont fouillés, mais j'ai eu une surprise un peu quand même, et ça m'a surpris, c'est qu'il n'y a pas eu de palpation, si vous voulez, au corps.
D'accord. Oui.
Et n'importe qui aurait pu avoir une ceinture. Mmh. Je ne vous dis pas que le carnage, vu le nombre de personnes qu'il y avait, ça aurait été la catastrophe.
Hein. Mmh. Oui, j'imagine.
Et c'est pour ça que moi, ça m'a surpris. Moi, disons, je vous dis franchement, je retournerais sans problème. Hein. Mais disons, ça me surprend un peu de certaines choses qui ne sont pas faites, disons, dans les règles. Hein. Parce que, disons, disons, ça aurait pu avoir une catastrophe, disons, quelqu'un qui est mal intentionné, ouais. Comme malheureusement ça s'est passé, voyez-vous, dans l'église, le pauvre père.
Mais vous, en tant que catholique pratiquant, Pascal, puisque j'ai bien compris que vous êtes catholique pratiquant,
oui,
est-ce que vous vous sentez une cible aujourd'hui, après ce qui s'est passé hier?
Non, je ne pense pas. Il y a toujours des risques. Mais il ne faut pas se sentir cible, si vous voulez. Bon, ils sont contre tout le monde, si vous voulez, ces gens-là. Hein, c'est pas plus les chrétiens, n'importe qui. Ils sont que toute la société, si on ne voit pas comme eux. Mmh. Et c'est le gros problème. Et je crois qu'il faut vraiment se souder ensemble, hein, et disons dire non. Hein. Et je crois que, disons, malheureusement, j'entendais encore ce matin, certains hommes politiques, disons, ne sont pas à la hauteur. Que ce soit d'un côté comme de l'autre, je crois que chacun devrait prendre ses responsabilités, que ce soit la droite, la gauche ou le président.
Oui.
Hein, mais je crois qu'il y en a qui ne prennent pas les décisions qu'il faudrait.
Eh ben, en tout cas, c'est dit et c'est votre avis. Merci beaucoup, Pascal. Pierre, au revoir, bonne journée en Ille-et-Vilaine. Pierre nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour, Pierre.
Bonjour.
Que vouliez-vous nous dire après cette attaque d'hier?
Alors, en fait, j'ai écouté beaucoup de choses, et puis notamment l'intervenant que vous aviez tout au début de l'émission.
Oui. Moi, le président du CFCM, le Conseil français du culte musulman, oui.
Exactement. Je crois que dans l'état actuel, l'état, si on veut rester dans le cadre d'un état de droit actuel, hein, l'état, à mon avis, ne peut plus faire grand-chose de plus. Mmh. Peut-être on peut imaginer que la justice puisse être un petit peu moins naïve, mais je crois que...
ce qu'on entend d'ailleurs, hein, de la part du gouvernement. On était aussi tout à l'heure avec Eduardo Rio-Cipel, alors il disait on peut peut-être appliquer les lois différemment, mais globalement, on ne peut pas faire grand-chose de plus. C'est
non,
la petite musique qu'on entend.
Je crois qu'il faut prendre le problème européen par un autre biais, qui est que, il est très clair que le but de Daesh, c'est d'entraîner la guerre civile en fait en Europe, une opposition entre les communautés, une guerre de religion, voilà. Et il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. À partir de là, je crois que si je vais raisonner au niveau de la France, hein, par rapport à ce qui nous arrive, mais bon, c'est valable pour la Belgique, c'est valable pour l'Allemagne, etc. Je pense que on est arrivé à un moment où il faut que la société civile se prenne en main. C'est-à-dire que le problème du terrorisme, maintenant, tel qu'il existe, c'est plus un problème que l'État seul peut régler. On doit avoir, nous aussi, et on a, nous aussi, citoyens, habitants de la France, une partie de la réponse. Alors, je vais dire trois choses relativement simples. Déjà, en ce qui concerne les musulmans qui vivent en France, il me semble que eux doivent absolument montrer qu'ils ne veulent pas tomber dans le piège de Daesh. Et quand je dis ça, je pense qu'il faut qu'ils se mobilisent lisiblement, visiblement.
C'est-à-dire une manifestation, par exemple.
Mais pourquoi pas? Mais tout au moins que ça soit beaucoup plus lisible et beaucoup plus visible. Mmh. Parce qu'il y a un autre fait qui est, hélas, une réalité dans notre pays. C'est quand même, il y a un substrat d'islamophobie qui est réel et il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Mmh. Donc je crois que ces gens doivent envoyer un signe clair à Daesh en disant « Nous, on vous suivra pas. Mmh. » Après, il y a les non-musulmans en France. Et eux, il faut aussi qu'ils envoient un signe clair à Daesh qui est « On ne tombera pas dans votre panneau de l'amalgame ». C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est du terrorisme, c'est du totalitarisme, ça n'a rien à voir avec l'islam. Mmh. Et le troisième point, qui me semble être important, c'est l'attitude des médias. Ah. C'est-à-dire que...
oui, mais non, mais ça m'intéresse encore plus, vous comprenez, bien sûr.
Je pense que, dans votre souci... Alors, je mets de côté les médias à émotion, qui font le jeu de Daesh en montrant que les gens ont peur, que les gens ceci et cela. C'est ce que Daesh veut entendre. Daesh se lèche les babines en voyant ça. Je crois que dans le cadre d'une presse qui essaye d'expliquer, il faut maintenant dissocier le totalitarisme de Daesh et l'islam. Alors vous le faites parce que vous dites et vous parlez d'islamisme, d'islamisme radical. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la différence entre l'islam et l'islamisme. Et donc, si on entend Daesh, islamisme, eux, ils entendent Daesh, islam.
Ouais.
Et je crois, à mon avis, qu'il faudrait se contenter de dire Daesh, entreprise totalitaire. Et je vais juste utiliser une petite comparaison qui est très simple. Pour moi, Daesh et le nazisme, c'est en grande partie la même chose, c'est-à-dire que c'est mu par une idéologie, et ces gens, quand ils ont cette idéologie, on ne pourra rien faire pour la changer. Mmh. Hein, les nazis, quand ils étaient SS, quand ils ont décidé d'exterminer une partie de la population, ils l'ont fait, et peu importe les discours humanistes. Mmh. Eh bien, je crois que Daesh, il faut le mettre exactement là où il doit être. C'est-à-dire déjà arrêter de dire que c'est un État islamique, enlever le mot islamique. Daesh, c'est, c'est une entreprise totalitaire. Mmh. Quand on parle des nazis, on ne parle pas des Allemands. On arrive à faire la différence. Ben quand on parle de Daesh, on parle de nazis, d'un autre type de nazis. Et il faut les laisser là-dedans. Et il faut, à mon avis, je pense, hein, oui, éviter systématiquement de toujours tout ramener à l'islam, l'islam. Parce qu'on sait le jeu de Daesh. Alors, je ne suis pas naïf non plus. Je sais bien que ces gens-là utilisent la religion.
Voilà,
mais il ne faut pas tomber dans le panneau qui nous tende, qui est de jouer là-dessus. Parce qu'ils savent très bien qu'en France, ça va susciter des remous.
C'est une vraie question, en tout cas, pour le troisième point que vous évoquez, qu'on peut se poser, comme celle d'ailleurs de donner les noms des terroristes, qui posent aussi question à la presse. Et la presse aussi, comme les autres, s'interroge pour savoir ce qu'elle peut faire, hein, également, pour participer à cette lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre, de nous avoir fait ces propositions. On va marquer une courte pause. On vous souhaite une bonne journée en Seine-et-Marne. C'est très intéressant. On va marquer une courte pause et puis on va se retrouver pour la suite et la fin de cette émission, avec notamment des témoignages sur les arnaques de l'été. A tout de suite.
RTL Midi.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h. Vincent Parisot.
Alors, Martine Pinville, la secrétaire d'État chargée du commerce, de l'artisanat et de la consommation, était notre invitée tout à l'heure. Vous l'avez peut-être entendu. Elle dressait le bilan de l'opération, j'allais dire l'opération anti-arnaque. Elle ne s'appelle pas exactement comme ça. L'opération interministérielle vacances. Hein, et elle nous disait qu'il n'y a pas vraiment d'augmentation, mais toujours environ 10% de cas qui posent problème lors de ces contrôles. Alors, des problèmes, on en a. On en a au 3210. Anthony, par exemple, a connu un problème, je crois, pour la réservation d'une chambre d'hôtel, c'est ça ? Bonjour, Anthony.
Bonjour, monsieur Parisot.
Vous nous appelez de Nancy, hein ?
Oui, tout à fait.
Vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé ?
Eh bien, en fait, si vous voulez, voilà, j'ai réservé une chambre d'hôtel donc, sur le site internet Booking.
Oui.
Donc, un des sites assez référencés pour
les... Ah ben, même on peut dire le site numéro un.
Voilà, oui, le site numéro un. Et donc, je ne suis pas un fanatique de l'informatique. Et, donc, j'ai réservé ma chambre d'hôtel pour une certaine date.
Oui.
Et comme vous réservez, comme j'ai payé, une fois que j'ai payé, j'ai reçu un mail de confirmation et la date déjà n'était pas bonne.
Ouais.
Donc c'était, moi j'avais réservé fin juin et la date était pour mi-juillet.
Ah non, ça collait pas.
Donc, voilà, non, ça collait pas du tout. Donc j'ai appelé donc la société Booking, je leur ai expliqué le problème, machin. Ils m'ont dit, bah, écoutez, monsieur, c'est pas dur, on va contacter l'hôtel et on va voir avec eux si on peut modifier
la date.
Si on peut modifier la date. Ok, il n'y a pas de problème, moi ça me va. Donc, de ce fait, l'hôtel donc, veut bien modifier la date.
Mm.
Et donc, mais sur réserve, pour rajouter 22 euros de plus.
Ah oui, pour la modification, vous étiez facturé 22 euros. Ah oui, effectivement, voilà. Ça c'est là on est, voilà, on est effectivement. Vous avez payé ces 22 euros ou pas, Anthony ?
Bon, écoutez, j'avais pas le choix parce que si je payais pas les 22 euros.
Il n'y avait pas de vacances.
Les 47 euros que j'avais déjà payés m'étaient pas remboursés.
Ouais. Bon, dites-nous que, simplement si au moins l'hôtel était bien.
Eh ben non, malheureusement, non. Je suis tombé sur une chambre d'hôtel déplorable. Insalubre, avec des taches de moisissure dans la salle de bain, le rideau de douche, une zone de crasse, des taches sur le mur.
Et ça, vous ne pouviez pas le savoir en regardant le site de réservation ?
Eh bien, il y a des commentaires qui disent que bon, c'est pas terriblement bien, que bon, faut noter 5 sur 8. Mais le problème, c'est que voilà, comme tu dis, honnêtement, j'ai pas pensé du tout aller voir les commentaires.
Ah,
ça, c'est une chose. à dire aux gens, allez voir les commentaires avant de...
Avant de cliquer. Je suis obligé de vous couper, Anthony, parce que pour le coup, vous êtes assez nombreux à vouloir intervenir, mais on a bien compris que vous aviez réservé et on vous a demandé 22 euros parce que vous avez modifié la date. C'est vrai que c'est un petit peu fort de café. Philippe est à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors j'allais dire que voilà, c'est le local des vacances. En tout cas, La Ciotat, c'est une destination aussi. Hein. Que vouliez-vous nous dire au sujet, je crois, de la carte bancaire ?
Oui. Bah, écoutez, moi, c'est simple. J'y habite, donc je sais très bien ce qui se passe.
Voilà, bah, vous allez nous raconter alors.
et en période d'été, juillet-août, vous avez 8 restaurants sur 10 qui refusent la carte bleue.
Ah, ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Ils vous disent la machine est en panne.
La machine est en panne, on n'a plus de papier. N'importe quoi.
Oui.
Et qui vous disent, vous avez un distributeur au bout de la rue, allez chercher des espèces. Donc, en fait, c'est pour faire
du black,
pour avoir des espèces au maximum, tout l'été.
Alors, c'est des gens qu'on connaît et qui,
en période normale, acceptent la carte bleue.
C'est ça, c'est-à-dire que la carte bleue fonctionne tout au long de l'année, c'est-à-dire de septembre à juin. Et puis, bizarrement, en juillet, en août, elle ne marche plus.
De juin, juillet et à août, elle est en panne.
Ça, c'était une pratique très, très courante en Grèce. Je ne savais pas qu'elle était aussi généralisée que cela en France, peut-être dans le sud. C'est très courant ce que vous nous racontez, là, Philippe.
Ah bah oui. Là, je peux vous garantir que ça fait plus de 11 ans que je suis ici. C'est tous les étés, hein. J'ai même des amis qui se sont révoltés, qui ont dit « je vous donne ma carte bleue, allez chercher des espèces, je vous donne mon numéro de compte ». Bon, ça c'était mal même terminé, mais oui. C'est très courant, c'est non-stop.
Eh ben voilà, c'est dit. Et ça aussi, une forme d'arnaque. Et pour le coup, là, on arnaque l'État.
C'est de l'arnaque.
L'État et les contribuables, là, en l'occurrence.
Exactement.
C'est dit. Merci beaucoup, Philippe. Bonne journée à La Ciotat, qui, en dehors de ça, est une ville si agréable. On remercie tous ceux qui ont fait le 32-10. Et puis surtout, on essaye de se retrouver demain, si vous le pouvez. Rendez-vous, 12h30.